IDFM Radio, le média valdoisien.
Votre nouvelle invitée maintenant à découvrir sur IDFM Radio s'appelle Juliette Marillier. Bonjour.
Bonjour.
Merci de venir à nous. Vous habitez Herblay-sur-Seine et votre métier principal, c'est luthière, mais pas que. Vous avez aussi une autre activité.
Exactement.
Qui rejoint justement ce premier métier.
Oui, c'est archetière. Ça complète, voilà, si on travaille sur l'instrument ainsi que ce qui peut être considéré parfois l'accessoire, l'archet.
Voilà, tout simplement, archetière, c'était ma question. Voilà. L'archet qui est surtout utilisé pour les violonistes.
Violonistes, violoncellistes, contrebassistes, altistes.
Voilà. Mais c'est deux métiers quand même bien distincts.
C'est normalement, ce sont deux profils différents parce qu'on travaille sur des matériaux qui peuvent être différents. On le voit, l'instrument est beaucoup plus gros et puis la technique est différente, le savoir-faire est différent.
En tant que luthière, vous jouez vous-même d'un instrument de musique ?
J'ai joué, je n'en joue plus, j'en écoute, mais j'ai joué du violon, de l'alto et puis le piano, mais bon, ça c'est autre chose.
Vous réparez pas mal d'instruments ou principalement quand même plutôt des instruments comme des violons, ou si j'ai un souci avec mon piano, je ne sais pas trop l'accorder parce que je viens de l'acquérir, l'acheter, vous pouvez venir ou pas ?
Faut savoir aussi se focaliser sur les aptitudes qu'on a. Et on cherche, on apprend des choses, mais changer d'instrument, c'est plus compliqué. Accordeur, c'est vraiment une spécificité.
Oui, c'est vrai aussi. Donc, vous travaillez principalement sur quel type d'instrument ?
En moyenne, c'est plus violon et violoncelle.
Accordéon, vous pouvez ?
Non, non plus. C'est vraiment sur les instruments à cordes frottées. Et qui sont principalement, enfin c'est plutôt ce qu'on appelle le quatuor, quoi.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un métier pas secret mais un peu rare aussi, un peu atypique? Faut trouver un luthier ou une luthière. Une luthière ou pas? Oui.
Je pense que oui. Moi, j'ai grandi à l'époque où on disait peut-être luthier, non pas luthière, mais je crois.
Oui, mais on dit, on emploie en tout cas luthière aussi.
Oui, ça y est, on a réussi.
Rien à voir avec la litière du chat, pardon.
Je n'ai pas de chat, pardon. Donc il n'y a pas de confusion. Luthière, en fait, c'est quand on commence la musique, quand on est enfant. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je voulais faire du violon et c'est le professeur qui vous conseille d'aller rue de Rome, notamment, qui est à Paris et qui est une des rues où la plupart du milieu y va, ou y allait en tout cas. Et donc, on a commencé à faire nos premiers pas comme ça dans le milieu. Moi, je me souviens qu'à vers mes 13 ans, en fait, on était en vacances à Nancy. On recherchait un violon pour moi, un violon de meilleure qualité. On est allé dans un atelier. C'était le déclic où j'ai senti les copeaux, j'ai senti le vernis. J'étais pas du tout manuel, mais c'est quasiment spontanément que j'ai compris que c'était le métier que je souhaitais faire. J'ai fait mon parcours après le bac. J'ai eu la chance d'aller en Italie.
Donc vous continuez avec Rome finalement, rue de Rome, et vous partez en Italie.
Oui, c'est ça.
C'est pas la même ambiance que la rue de Rome à Paris, bien sûr. Non. Mais là, vous partez plus précisément, vous arrivez à Milan.
Pour
exercer, métier, pour apprendre.
Pour apprendre à fabriquer et à réparer, restaurer. L'entretien est aussi une logique qui... Si on sait restaurer, normalement, on sait entretenir un instrument dans les choses les plus simples du quotidien.
C'est un beau métier. Il faut être assez pointilleux, délicate aussi, avec les cordes, du violon. Examinez tout en général quand on vous prête un instrument.
Il faut savoir regarder de façon globale un instrument et de la théorie. C'est comme quand on vous apprend à lire, c'est la théorie, vous lisez les mots. Mais il faut savoir lire la phrase complète pour comprendre le contexte qui est tout autour. Et chaque instrument, surtout, ou archet d'ailleurs, a son histoire. Donc la théorie, c'est qu'on nous apporte un instrument qui est cassé. on sait qu'on va devoir le recoller. Voilà, le principe, c'est évidemment de recoller, de renforcer. Mais vu que chaque instrument a une construction différente ou une histoire différente, ou le bois est différent, le vernis, on va devoir y réfléchir de façon un peu unique, finalement. Et c'est une réflexion qui se fait dans le temps. Ça, c'est, on apprend ça à l'école, mais ensuite, c'est aussi quand on réfléchit par soi-même.
Quand vous avez un ancien instrument entre les mains, peut-être que cette matière est plus difficile à trouver, donc vous essayez de mettre en place des alternatives et éventuellement...
En fait, il y a un concept qui est de rester dans la tradition, ce qui fait que le plus de parties originales à laisser sur l'instrument ou l'archet, on va éviter de modifier la structure dans le respect de l'histoire du fabricant et du musicien qui joue d'ailleurs cet instrument. Donc il y a toute une réflexion, pas philosophique, mais je dirais de respect sur ce qui a été déjà peut-être restauré avant. Et puis ensuite, nous, on fait partie de l'histoire modestement. Et le plus discrètement possible, parce que le moins on voit la réparation, le mieux, normalement, c'est fait.
Du coup, on vous confie un instrument sur plusieurs semaines, plusieurs jours. Ça dépend de la casse qu'a subi à l'instrument de la musique.
Oui, puis ça dépend aussi de combien de réparations on a à faire en même temps. Et puis, il y a aussi le fait, tout simplement, qu'on utilise des cols encore de tradition de... 1750, 1800, enfin je saurais même pas dire les dates. C'est un temps de séchage. Aujourd'hui, on utilise de la superglue. Évidemment qu'on va pas utiliser ce genre de colle pour le principe de pouvoir démonter et remonter.
Ça risque de fragiliser en plus l'instrument.
Oui, et puis c'est toujours dans l'idée de pouvoir démonter, décoller pour pouvoir réparer, pour pouvoir recoller après. Pour toujours, comme un puzzle finalement. C'est de remettre en place et de bouger en se disant le jour où le bois travaille encore, parce que le bois respire, bouge, qu'on puisse manipuler de nouveau cet endroit et même nettoyer parfois des réparations qui, avec le temps, faut bien donner un petit
coup. Quels sont les cas critiques que vous avez rencontrés?
En termes techniques, si je vous dis éclisse, ça va.
Non, ça veut rien dire. Non, mais je veux dire, on vous amène un violon où il y a des taches de peinture, par exemple. Est-ce que c'est arrivé?
Donc, du coup, il va falloir. C'est forcément arrivé à quelqu'un.
Les enlever, parce que moi, je vais pas je pourrais les enlever moi-même, mais ils risquent de faire quand même des dégâts.
Oui,
donc, j'ai besoin de vous pour enlever ces taches et restaurer l'instrument.
Oui, c'est là où justement le fait d'avoir fait des études, quand même, permet de savoir quoi faire et de surtout ne pas faire certaines choses. Je dirais que c'est j'aime beaucoup expliquer aux musiciens, par exemple, comment changer une corde, des choses qui paraissent simples, mais quand ça arrive, la corde qui casse, c'est tout bête. En général, le professeur n'a pas le temps d'expliquer ce genre de conseils.
Non, mais c'est quelque chose, en tout cas, qu'il faut apprendre en tant que musicien aussi, si jamais il y a une corde qui lâche.
S'il y a une urgence, ou alors, c'est de savoir se dire, je peux faire ce geste, le geste suivant sera le professionnel luthier, archetier qui le fera. C'est de savoir se dire stop, et par contre préserver et éviter une casse plus grave. Le geste d'apprenti mais amateur, il faut aussi une communication et savoir appeler et puis dire oui, allô, je crois que j'ai fait une bêtise, je peux vous envoyer la photo et puis on en discute.
Donc dans un premier temps, on peut mettre quand même une petite rustine et puis venir vous voir quelques temps après. Non, même pas.
Idéalement, il faudrait appeler immédiatement.
Oui, immédiatement. C'est une urgence. Mon instrument a un très grave bobo, j'ai besoin de vous.
Le grave bobo, en général, c'est quand on a fait une bêtise. Donc, on se doute bien que si on a fait une bêtise, c'est qu'on ne savait pas quel geste faire avant ou qu'on a un manque de peau, quoi. Enfin, l'instrument tombe parce qu'on a glissé ou... on est humain, donc on a un objet dans les mains, on est imprévisible. Après, il y a forcément des cassures qui sont logiques par rapport à la structure de l'instrument qui font que, bah oui, le bois sèche, le bois, on transpire parfois sur l'instrument. Enfin, il y a des choses qui sont, qui arrivent, qu'on ne voit pas immédiatement, mais plus le temps passe, plus le bobo arrive, quoi.
Les cordes, en règle générale, c'est assez solide, on peut les garder quelques années.
Alors, pour les cordes, on va dire que pour un...
Il faut vraiment y aller, en tout cas, pour en casser une ou plusieurs.
Bah, ça peut être un défaut de l'instrument si elle casse, ou bien ça peut être de l'usure, ou bien un problème de corde, manque de peau, hein, parce qu'il peut y avoir des matériaux qui sont... sur les mètres de fabrication, on se doute bien qu'il y a forcément une faille dans l'une d'entre elles.
Il y a plus de difficultés sur la fabrication actuelle que sur des instruments qui sont beaucoup plus anciens. Je parle de ça, par exemple, avec que ce soit avec les voitures ou même l'électroménager. Aujourd'hui, quand on utilise tous ces appareils, c'est électronique et très rapidement, en fait, c'est agaçant parce qu'après l'achat, des fois, au bout de quelques semaines... Il y a un pépin.
Oui.
Alors qu'avant, on avait, je sais pas, une machine à laver ou d'autres instruments, et ça durait quand même très 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 longtemps. On a l'impression qu'aujourd'hui.
Alors le principe, c'est que normalement, la fabrication aujourd'hui, on utilise les mêmes méthodes qu'à l'époque. Donc, vu que la structure est la même, les problèmes seront les mêmes plus tard. On peut éventuellement réfléchir à de légers détails de structurels qui sont à l'intérieur, mais tellement enfin qu'on ne voit pas, parce qu'il faut rester sur une esthétique aussi historique. Et donc un instrument qui a 300 ans, c'est sûr que bon, personnellement, ça me fait plus pétiller qu'un instrument qui a 10 ans.
Oui.
Après, bon, si je connais la personne qui a fabriqué l'instrument, bon, ça me fait pétiller aussi, mais voilà. Dans le respect de cette histoire de la culture, de la musique, de combien de personnes ont joué sur cet instrument, qu'il soit très bon ou plus modeste, si on se dit qu'il y a quelqu'un qui a été passionné. Et donc, on peut même penser que, tiens, le vernis est bien, bien, bien usé. Bon, c'est que l'instrument a bien, bien, bien été touché physiquement et limite agrippé, quoi, par quelqu'un qui était là à passer des heures dessus.
Vous avez eu entre vos mains un instrument qui a effectivement plus de 300 ans et qui a appartenu à des grands noms de la musique.
Oui, après, définition du grand nom, c'est, je voudrais bien savoir quel est le degré de grand nom. Mais oui, faut se douter quand même que sur 300 ans, il y en a eu. Hein,
des petites mains qui sont passées dessus.
Oui, j'allais dire des gugus, mais que ce soit des personnes de mon métier ou bien le chef d'orchestre qui a peut-être agrippé ce violon pour aider, je ne sais pas. Il y a toute une histoire qu'on ne voit pas, mais on se doute bien. Enfin, c'est comme une peinture. Une peinture, elle a été regardée combien de fois ? C'est ça, quoi.
Non.
C'est ça qui fait que des personnes vont au musée. Enfin, c'est la même chose. Mais le musicien, il y a quelque chose de plus charnel parce qu'on le touche. On peut le toucher. On sort du son. J'en avais pas parlé, mais c'est l'évidence. Il a une voix. L'instrument a une voix, la baguette vibre, il y a tout un aspect physique qui est ressenti, c'est le musicien, son instrument et son archet qui font, il y a une symbiose quoi, et il y a un travail technique où le musicien doit bosser pour dompter et se familiariser, et puis avec ses facilités et les contraintes éventuelles de... des instruments et autres archets.
Nous sommes toujours sur IDFM Radio avec votre invitée du jour, Juliette Marillier, qui est archetière et aussi luthière. Elle est d'Herblay-sur-Seine. Il y a son atelier justement où vous réparez tous les instruments. Cet atelier s'appelle Cordes et Crins. Non, il n'est pas...
Alors, Cordes et Crins. En fait, physiquement, oui, j'ai un atelier qui se situe chez moi. Moi, je suis un petit peu particulière sans vouloir m'envoyer des fleurs. Mais c'est que... parfois, le musicien ne peut pas se déplacer. Donc, moi, je pars du principe que je me déplace avec ma petite valisette.
Et votre vélo ?
et mon vélo. Et
on vous voit train, sur votre site internet en vélo.
Train, avion, tous les services sont faits pour aider des musiciens qui ne peuvent pas se déplacer, parce que concert le soir, répétition la journée, concert les week-ends. Donc oui, voilà. C'est, vu que mon frère est musicien, je sais tout à fait comment un musicien peut se retrouver facilement coincé à 20h et se dire « mince, je pars à 6h demain matin, j'ai besoin d'une corde en urgence, j'ai besoin de remécher mon archet ». Enfin, les urgences, elles arrivent toujours, dans tout métier d'ailleurs. Donc voilà, ma petite valisette et moi, on se déplace parfois et c'est avec plaisir.
Juliette Marillier, ne bougez pas, on se retrouve d'ici quelques minutes. On continue à parler sur IDFM Radio de votre passion de luthière. IDFM Radio, nous sommes toujours avec Juliette Marillier, qui est archetière et luthière. Elle répare pas tous les instruments de musique, principalement ses violons, violoncelles, contrebasses.
Violon, alto, violoncelle et contrebasse.
Contrebasse, et... c'est imposant, hein.
C'est un peu plus gros.
Donc là, c'est plus compliqué pour se déplacer avec cet instrument, avec votre vélo.
Oui, non, c'est le vélo, c'est quand il n'y a pas l'instrument ou alors quand ça reste un violon. Faut savoir aussi se maîtriser dans ces mouvements. Et puis, oui, enfin voilà, c'est ce qu'on appelle le quatuor. Je les répare, tandis que les archers, je les fabrique et je les répare.
Vous faites de la location d'instruments aussi ou pas?
Oui.
Avec donc votre atelier Cordes et Crins qui se trouve à Herblay sur Seine. Les instruments que vous recevez, donc vous nous l'avez dit, hein, ça dépend du souci qu'il a. Ça peut être sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Puis vous commandez.
Ça dépend aussi des requêtes de la personne qui me l'apporte, parce que parfois ça m'est arrivé qu'on m'apporte un instrument en me disant, moi, bon, je pense à quelqu'un en particulier, ma maman a Alzheimer, elle ne joue plus son violon depuis 30 ans, je ne sais pas ouvrir l'étui, et je voudrais remettre en place cet instrument, lui redonner une apparence. C'est pas la même, donc c'est ce qu'on a fait. Et d'autres personnes, par contre, un musicien m'aurait apporté cet instrument pour le jouer. L'objectif n'est pas le même. Si la personne vient, elle m'explique son objectif. Si c'est en accord, si on a un accord entre les deux et que c'est bon pour le violon, enfin, je dis le violon, mais l'instrument, tout est parfait. C'est l'objectif est d'aider qu'on s'aide tous et puis qu'on s'explique, quoi.
Des personnes n'ont pas forcément fait attention, donc de temps en temps, vous recevez des coups de fil. Est-ce que vous pouvez réparer mon instrument de musique?
Oui, en général.
Donc, du coup, comme vous avez une spécialité, comme on l'a dit, du coup, vous pouvez pas faire grand-chose sur... j'avais cité l'accordéon tout à l'heure, ou même un saxophone.
Oui, mais quand je sais pas faire quelque chose, en général, sachez que je regarde, moi, comment aider la personne de toute façon.
Oui,
ça m'embête.
Et puis, c'est quand même... Pour les conseiller, les diriger après.
Disons que c'est plus facile quand même. Il y a une certaine logique, c'est de savoir dire, dans ces cas-là, veuillez vous renseigner auprès de tel atelier. On est quand même un milieu qui est petit, donc on a forcément des conseils, au moins d'explications, et de se dire pas de panique, posez-le, rangez-le. C'est dans le, il y a des gestes qui sont parfois qui semblent idiots, mais qui sont les premiers secours entre guillemets. Et bon, en accordéon, oui, je suis pas spécialisée, mais par contre, je peux appeler un luthier qui joue de l'accordéon ou qui connaît quelqu'un qui joue de l'accordéon. Moi, par chance, je fais partie d'une association qui fait des concerts et avec principalement des jeunes musiciens. Et je connais un accordéoniste, une accordéoniste, donc je me dis, bah, pourquoi pas les appeler. Là-dessus, j'ai pas de difficulté.
Bon, bah, c'est bien. Vous avez un carnet d'adresses bien rempli. Depuis combien de temps ça existe exactement? Depuis combien d'années vous êtes basé à Herblay-sur-Seine?
Moi, c'est tout récent, si je puis dire. C'est à peu près un an.
Ah oui, octobre effectivement. De l'année. Donc. Alors que cette passion est née très jeune quand même, hein?
Oui.
Vous étiez ado, pré-ado en tout cas?
Oui, 13 ans. Et puis le violon a toujours fait partie de moi, mais à un jeune âge. Je voulais en faire à 5 ans. Bon, il a fallu attendre parce que 5 ans c'était jeune pour l'époque.
Bah pourquoi pas? Virtuose, non?
Non, j'étais pas virtuose, pas moi, mais non, passionnée, ça suffit, être passionnée pour vouloir faire du violon. Non, il faut attendre un petit peu, puis selon les professeurs, certains préfèrent se dire, parce qu'on parle de faire du violon, mais il faut aussi faire le solfège à côté.
Oui, c'est un peu pénible ça, mais c'est un passage quand même obligatoire pour connaître les mesures, les notes, etc., les partitions.
Oui, savoir lire le langage musical.
Oui.
Donc,
on est tous passés par là. Moi, je suis passé par là aussi il y a quelques années. Ouais. Même si c'était pas forcément ma tasse de thé, mais bon.
Non, mais après, il suffit de comprendre la logique et puis vu que ça rend plus facile quand même les choses pour jouer de la.
Parce qu'il y en a qui sont assez autodidactes, hein, qui n'ont pas besoin de ça, qui apprennent.
Oui.
Mais c'est quand même important de comprendre quand même la logique, l'histoire aussi de tout ça.
C'est aussi, c'est comme pour. Ça revient à la conversation du luthier qui aide le musicien. Ça permet d'avoir le même langage. De pouvoir communiquer sur la même feuille et même sans parler, on voit ce qu'il y a à faire et on le fait ensemble, même sans se regarder. Il y a un lien qui se crée via une partition, enfin c'est comme ça que je le vois, une communication qui est là depuis très très longtemps. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que la musique a été écrite. Au début, elle l'était pas. Donc pour l'après, enfin pour le futur, notre futur, nous on l'écrit aujourd'hui, pour après, c'est le principe des partitions également.
Des luthiers, des luthières, des achetiers, on dit aussi.
Archetiers,
pardon. Il en existe d'autres sur le Val d'Oise, vous en côtoyez ou pas ou...
Oui. Ben après, c'est on n'est pas très nombreux dans le Val d'Oise, mais oui, il y a un autre luthier pour le quatuor, il y en a un autre pour la guitare. Alors moi, en termes de guitare, je sais pas si c'est acoustique et compagnie, je suis un peu perdue. Voilà, c'est chacun sa spécialité. Et puis sinon, il y a aussi des associations d'archetiers et de luthiers. Il y en a plusieurs. Et puis moi, par chance, vu que j'ai étudié en Italie, dans ce milieu-là, on réfléchit pas en département, on réfléchit en pays. Je dirais que c'est forcément, vu qu'il y a très peu d'écoles de lutherie et le terme école d'archeterie, je ne l'ai jamais entendu, par exemple. On dit que ça n'existe pas et qu'il faut apprendre dans un atelier directement en lutherie. Il y en a quand même quelques-unes, mais disons qu'on va, penser tout de suite à 5 écoles dans le monde, alors qu'il y en a beaucoup plus, mais principalement, on pense à 5 écoles. Donc, une en France, une en Italie, une en Allemagne, une... d'autres pays en Angleterre, ça y est, je l'ai dit, et une aux États-Unis. Mais bon, parce que le milieu semble très large, parce qu'on parle du monde, mais finalement c'est très restreint vu qu'on chacun, il y a forcément une connexion en fait entre 2 ou 3, 4 personnes. On sait que un tel a bossé avec un tel ou un tel a étudié avec un tel. Très grand et très petit à la fois.
Vous avez été luthière avant d'être archetière?
Oui, c'est ça. J'ai fait ma formation donc de lutherie. Après, je suis revenue en France en me disant faut faire quelques stages maintenant, hein, ce qu'on appelle l'expérience, comme tout, toute universitaire, si c'est le terme. Et puis après, j'ai découvert l'archetterie. Je me suis focalisée là-dessus par chance.
La formation, elle dure combien de temps et qu'est-ce qu'on vous apprend exactement?
On nous apprend à devoir travailler après.
Il y a des cours quand même sur un petit peu l'histoire des instruments de musique ou pas durant cette formation?
Oui. Il y a le manuel et puis il y a aussi l'aspect physique de comprendre un peu pourquoi cette structure fonctionne, pourquoi elle a légèrement évolué. Vous ne le verrez pas forcément, vous, entre un instrument allemand et un instrument italien, par exemple.
Oui, c'est sûr.
Voilà. Mais il y a une structure qui est différente et on se dit, tiens, mais pourquoi ce son est différent? Donc, on nous apprend ça. Bon, après, on n'a pas 30 ans d'expérience quand on fait 4 ans d'études, ou 6, parce que, bon, j'ai fait de la restauration aussi en études. Donc, après, les objectifs sont... Chacun préfère, je sais que des personnes de ma formation se focalisent sur la fabrication. Moi, j'avais compris que pour les instruments, en tout cas, je préférais restaurer. C'est la fabrication, c'est notre pensée. Le résultat, entre guillemets, d'apparence, c'est on a un violon et un violon. Mais faut s'orienter plus sur une technique plus que l'autre.
Vous utilisez quel type d'outils en règle générale? Des petits pinceaux? J'exagère un peu, mais pour nettoyer, pour restaurer. C'est des instruments avec des noms bizarres, les outils que vous utilisez pour réparer les instruments?
Rabot, scie, couteau ou canif. Alors ce terme, je ne sais jamais parce que je l'ai appris en italien.
C'est quoi ça?
Rap, vous voyez ce que c'est qu'une lime?
Oui, oui.
Alors, la râpe, c'est les petits points. Des petits pinceaux, oui, pour faire les retouches de vernis. Alors, on peut s'amuser à voir des vidéos sur Internet. Certains, il y a une méthode pour nettoyer l'instrument, c'est de mettre du riz à l'intérieur et de secouer. Et comme ça, la poussière s'agrippe. Du riz qui n'est pas cuit.
Oui.
Non, l'anecdote est vraie. Malheureusement, elle est vraie.
S'il est cuit, normalement, ça va pas faire grand-chose. Ça va coller à l'instrument.
Oui, mais essayez ensuite de. Enfin, il y a tout un travail derrière pour le retirer. C'est pas très marrant. Enfin, c'est marrant quand on en parle. Mais on se dit que là, justement, la personne qui a eu ce conseil sur Internet aurait dû appeler quelqu'un pour demander si, oui, c'était bien cette méthode. Après, on travaille sur différents bois. Enfin, c'est quand vous me parlez d'outils, il y a l'outil, mais il y a le bois aussi qu'on choisit. Parce que parfois, il faut rajouter du bois.
Mais vous trouvez où tous ces matériaux aussi? Parce que il faut vous fournir, bien évidemment, le vernis, etc. Il y a encore des spécialistes.
Oui. Il y a des
fournisseurs
des boutiques,
en France où il faut quand même commander plutôt à l'étranger ou...
Ça dépend un petit peu de ce que vous recherchez. Et puis bon, c'est... Il y a en France, enfin, ce que vous achetez en France n'est pas forcément fait en France, ou le bois n'est pas forcément dans l'archetterie. Bon, c'est du Pernambouc. Le Pernambouc, c'est malheureusement d'ailleurs, ça ne pousse pas, c'est pas dans les bonnes conditions qu'on pourrait le prendre en France. Donc, on est, et puis on prend évidemment du bois qui est sec, y compris aussi dans les restaurations. C'est ce qui est sympa, c'est dans la lutherie, on travaille sur des bois qui, on va dire, sont européens, sauf l'ébène, bien sûr. Et puis l'archetterie, on va travailler sur des bois qu'on appelle exotiques, et puis aussi de l'argent, de la nacre. On travaille sur différentes textures. Donc c'est différents outils, mais qu'on dira communément, c'est une lime. Mais oui, mais on en a 50 en fait des limes. C'est un rabot, on en aura 10 parce qu'il y en a un qu'on a préféré plus que les autres. Et puis c'est l'outil en soi, je saurais même pas vous dire combien on en a parce que parfois, quand on a une situation délicate à réparer, l'outil général ne peut pas aider, donc il faut même se les fabriquer avec des aimants. Faut être inventif à un moment donné. C'est bien d'être dans la tradition, Mais par moment, il n'y a pas le choix. Il faut chercher et se dire, bah, tenter, innover, même si parfois, c'est pas forcément une méthode qui peut être écrite, parce que dans le respect de la tradition.
Merci beaucoup, Juliette Marillier, d'être passée aujourd'hui sur IDFM Radio. Vous nous avez parlé de votre passion d'archetière et luthière. Je rappelle que vous êtes basée à Herblay-sur-Seine. On peut venir vous voir au sein d'Atelier Cordes et Crins. Le site, c'est ateliermarillier-cordes-et-crins.com. Vous êtes aussi sur Instagram avec Juliette Marillier pour voir un petit peu votre travail. Vous postez régulièrement des petites vidéos, des stories de votre activité. Merci encore.
Merci à vous.
Bon retour. Allez, une dernière petite question. Vous êtes sur quoi en ce moment, là?
En ce moment, c'est sur la fabrication d'un archet de violoncelle.
Très bien.
Voilà.
Et donc, c'est beaucoup de travail. C'est des heures et des heures.
C'est des heures et des heures. Et puis, c'est de s'organiser pour le finir. Et puis, de se dire, ah ben oui, allô, oui, bonjour, changement de corde, je ne sais pas faire. OK, venez. Et puis, il y a toujours du travail sur des violons que anciens que j'ai et que je voudrais remonter pour qu'ils puissent ressonner, quoi.
Merci encore.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt.
Sur IDFM Radio.
I couldn't catch it, heart in the casket. You always knew it, the star and roll, the main attraction. Got cameras flashing, like ooh, you got everything.